Donc vivre poétiquement, c'est écouter cet endroit en nous où le point de solitude est le plus sauvage.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude, économie et poésie. Voilà ce qui nous attend tout de suite avec Yannick Hennel et Dominica.
La première.
Dans quel monde on vit ? Avec Pascal Claude.
C'est fou comme la poésie peut tout à coup apparaître comme une éclaircie, son apparence floue menée à la clarté, effacer la buée, consoler, apaiser, requinquer, révéler. Je dois ici vous confier ma passion en particulier pour la poésie de Christian Bobin. Son nouveau livre est sorti il y a quelques jours, Bonheur et tremblement en le découvrant. Et je me suis dit, c'est fou comme la poésie peut en quelques mots à peine aller à l'essentiel, capturer les sensations et les émotions humaines, saisir l'époque. Ils courent pour fuir la tempête que leur course engendre. C'est ce qu'écrit Bobin, je répète. Ils courent pour fuir la tempête que leur course engendre. Connaissez-vous une meilleure formule pour décrire la fuite en avant de la communauté des humains en ce début de XXIe siècle? Et comment ne pas être bouleversé plus loin par ces mots qui n'ont l'air de rien? Un petit manège tourne, allumé dans la nuit comme un chagrin merveilleux. Lire de la poésie, s'enfoncer dans une sorte de méditation silencieuse, délicieuse, merveilleuse, même si parfois douloureuse. La poésie, c'est eau fraîche pour cœurs assoiffés qui n'en auront jamais fini de brûler. Lire de la poésie et puis tenter de vivre poétiquement, habiter poétiquement le monde, comme l'écrivait le poète allemand Hölderlin. Mais comment on fait? Comment devient-on poétique? Bobin nous laisse cet indice, cette piste. Et poétique, toute concentration soudaine du regard sur un seul détail que provoque notre désir enfantin de ne jamais mourir. Vivre poétiquement, et si nous tentions dès maintenant, tant qu'il est encore temps.
Dans quel monde on vit ?
Et nos invités tentent-ils, parviennent-ils à vivre poétiquement ? Nous allons leur demander à nos côtés. Yannick Hennel, vous êtes écrivain né en 1967 à Rennes, en France. Le trésorier payeur, c'est votre nouveau roman, l'histoire d'un jeune homme qui passe de la philosophie au monde de la banque et qui défend cette idée, plutôt que d'épargner, il faut tout dépenser. Vous nous détaillerez cette étonnante règle économique tout à l'heure. Et puis lui, il publie son premier livre de poésie, son titre Le présent impossible, et il nous revient avec un nouvel album studio.
J'ai bien connu le monde réel.
Il s'appelle Le monde réel, c'est signé Dominique A. Vous êtes né, Dominique, en 1968 à Provins, en Seine-et-Marne, en France. Alors commençons par la poésie et par cette possibilité de vivre poétiquement. Vous y parvenez, vous, Yannick Hennel ?
Ben, je ne cherche que ça. Il n'y a que la poésie qui me comble. C'est la dimension intérieure du langage. Je crois que c'est le seul absolu qu'on ne nous a pas encore volé et qui ne coûte rien. Et précisément, puisqu'on va parler un peu d'économie de manière amateur, et précisément, c'est la sortie hors du calcul. Voilà. Enfin, on cesse de calculer. Comment je fais ?
Pour vivre poétiquement.
Alors, je ne sais pas si j'y parle rien, mais c'est en écrivant tout le temps. Dans le très beau recueil de Dominique A, il y a cette idée à un moment d'écrire de la poésie sans cesse, même en faisant autre chose. C'est écouter autre chose que ce qui nous attaque. Enfin, le monde réel, du titre de votre album, je pense que c'est ça, c'est celui de l'indemne, de ce qui échappe à l'emprise. C'est ce qui est irréductible, enfin, je ne sais pas où ça se situe, c'est entre le cœur, la gorge, la poitrine. C'est quelque chose que personne n'aura, en fait. Même les marchés financiers, même la politique la plus veule. Donc vivre poétiquement, c'est écouter cet endroit en nous où le point de solitude est le plus sauvage.
L'écoutez, Dominica, ce point en vous ?
Je tente, mais je le formulerai beaucoup moins bien que Yannick Hennel.
Mais dites-le nous avec vos mots, Dominica.
Non, mais en fait, je pensais, j'ai une toute petite anecdote. Une fois, j'étais dans un jury et y avait il n'y avait pas de consensus sur un prix à remettre. Et la présidente du jury, à un moment donné, soutenait un choix qui n'était pas le mien, donc on était opposés sur ce choix. Et à un moment donné, je parlais du livre qu'elle défendait. Je dis, mais il n'y a pas de poésie là-dedans. Et elle m'a regardé avec des yeux effarés en me disant, mais si tu savais ce que j'en ai à foutre de la poésie. Et là, je me suis dit, ah, effectivement, là, ça va être compliqué de trouver un point de jonction entre nous.
Mais alors, vous pouvez nous dire de quelle manière on peut l'identifier, la poésie, Dominique?
C'est ce que disait Yannick Hennel, c'est l'irréductible, c'est ce qui échappe au calcul, c'est ce qui échappe à nos lâchetés aussi. Je ne sais pas si je vis poétiquement, j'ai l'impression de le vivre trivialement un peu tout le temps et par moments d'injecter dans ma vie des espèces de flashs poétiques. Et voilà.
Vivre poétiquement, Yannick Enel, c'est sortir du calcul. Et pourtant, le héros de votre livre, ce jeune banquier, il défend l'idée que l'économie est à la base de la poésie.
Oui, oui, c'est un homme paradoxal. J'ai envoyé un infiltré, comme on dit au cinéma, dans la banque. Mais précisément, c'est un poète masqué. Enfin, c'est Rimbaud chez les capitalistes. Cette idée m'excitait depuis longtemps, je sais pas, depuis, vous souvenez, la crise des subprimes,
ou, ah bah oui. Voilà. Comment ne pas s'en souvenir?
Je sais bien, mais précisément, là, c'était trop. Enfin, là, je me suis dit, faut quand même s'intéresser un peu à l'économie, parce qu'elle est en train de nous faire la peau, quoi. Et elle nous fait la peau à chaque instant. Et se contenter de se dire, j'y comprends rien, à la fin, ça devient une posture dandy, de victime pitoyable. Enfin, je parle de moi, hein. Et j'en suis arrivé un jour, plutôt que de raconter mes histoires à la Kerouac, enfin, de poésie instantanée, je me suis dit, tiens, je vais envoyer un de mes personnages dans la banque. Qu'est-ce qui s'y passe, au fond? Et voilà, je me suis intéressé à la Banque de France via une ancienne succursale de la Banque de France à
Béthune.
Dans
le nord de la France.
Dans le nord de la France, à Béthune, où j'étais invité pour une exposition, je vais faire le catalogue, sur l'influence de Georges Bataille sur l'art contemporain. Parce qu'un centre d'art s'est établi à l'intérieur d'une ancienne banque. Et c'était en chantier.
Georges Bataille, philosophe français.
Georges Bataille, c'est quasiment mon écrivain préféré.
Voilà.
Écrivain assez sulfureux, des romans érotiques très, très ardents, mais aussi des essais philosophiques et un livre étrange qui s'appelle La part maudite, qu'il a publié en 1949. Une tentative très rare pour des écrivains d'écrire sur l'économie. Et son idée, que je trouvais effervescente, c'était de se dire que le cœur de l'économie ne relève sans doute peut-être pas du profit, c'est-à-dire pas de l'épargne, mais de la dépense.
N'allez pas plus loin. On
D'accord.
y revient dans quelques
très
instants.
Bien, très bien.
Parlons encore un tout petit peu de poésie. Parfois, Dominica, la poésie, elle s'en va.
La poésie s'en est allée. Je la soupçonne d'être passée par chez toi.
Qu'est-ce qui se défait quand la poésie disparaît, Dominica?
De s'être allongée dans ton lit et d'avoir...
Vous le savez, vous?
Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qui reste?
Il reste nous à essayer de la récupérer, je sais pas. Non, je suis un foutu de vous répondre, je suis désolé.
Bon, il y aura d'autres questions tout à l'heure. Ouais. Dominica et Yannick Enel, vous êtes nos invités ce matin jusqu'à 11h sur La Première. Bonjour Juliette Goudot.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, écrivaine, autrice de lettres aussi dans ce magazine. Vous allez écrire à qui ce matin?
Mais je vais écrire à nos corps et un petit peu aussi à Marilyn Monroe.
En toutes lettres, c'est tout à l'heure aux alentours de 10h30. Et tout de suite, donc, la banque, l'argent, la dépense, la charité, la gratuité, c'est avec vous Yannick Enel.
Oh, l'argent, tu n'en connais pas la valeur. Mais ouvre donc les yeux, regarde la vie. L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout.
Quoi qu'il en coûte,
faut-tu dire quoi qu'il en coûte? Ça coûte rien. Non, le quoi qu'il en coûte commence à nous coûter très cher.
Il faut être très clair, le quoi qu'il en coûte est mort.
Le trésorier payeur, c'est donc votre nouveau roman. Votre personnage principal, c'est le jeune Bataille. C'est un féru de philosophie, de poésie qui évolue donc dans le monde de la banque, dans une succursale, vous l'avez dit, de la Banque de France à Béthune, dans le nord de la France. Il vit dans une maison juste à côté et un tunnel relie cette habitation à la banque et je n'en dis pas plus. Pour votre jeune Bataille, la date du 15 août 1971 et si je puis dire, capital. Que se passe-t-il ce jour-là, Yannick Enel?
Il se trouve que Richard Nixon, figurez-vous, et le département d'État, a décidé de couper le lien entre la quantité d'argent qui circule, qu'on imprime les billets sur Terre, enfin dans un pays, et les richesses réelles, c'est-à-dire les lingots d'or. Avant, ça marchait comme ça, dans les pays, dans les nations. Et à partir de là, par cet acte, enfin, il y a une dérégulation des marchés, comme on dit, enfin, d'après ce que j'ai compris, qui fait que on imprime à tout va, et c'est jamais que de la fausse monnaie, puisque c'est l'argent qui circule sur Terre, c'est de la fausse monnaie, puisque ça n'a aucun rapport avec les richesses réelles. Le capitalisme, enfin, les économistes disent tout le temps quand il y a une crise, vous en faites pas, on va en sortir et l'économie va retrouver quelque chose de normal. Mais en fait, le capitalisme, c'est la crise.
Il n'y aura plus d'autre temps désormais que celui de l'économie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que la crise, Le temps sera devenu la crise, et la crise sera devenue le temps. Et donc c'est le temps qui est en crise.
C'est plutôt une atteinte au temps. Le temps lui-même, c'est l'autre nom de la poésie. Enfin, quand on s'ouvre au temps, enfin, quand on caresse le temps, comme dit Nabokov. Mais là, le temps, il est pris en otage, comme
maltraité.
Nous.
Maltraité. Enfin,
maltraité, absolument. Attaqué, violé. Enfin, la mise en calcul de tout, sur Terre, c'est très exactement ça. Enfin, on est complètement otage. On nous empêche de vivre poétiquement.
Enfin, c'est primordial. Enfin, ce rapport au temps, moi, je pense que... Le capitalisme cherche tout simplement à éradiquer le temps. C'est le nerf de la guerre, c'est le temps. Le temps qu'on prend à faire les choses, le temps qu'on prend à recevoir les choses. Moi, je suis persuadé de ça. Enfin, c'est mon nouveau credo. Quand je vous entends dire ça, je me sens tout vibrillonnant.
C'est le truc à protéger à tout prix, le temps.
Mais bien sûr. Mais voyez, pour votre émission, vous avez le temps. C'est bien.
Jusqu'à 11h.
Ben oui, mais c'est bien.
C'est déjà ça.
C'est bien.
Bon.
C'est pas donné à tout le monde.
On poursuit et on parle... de cette idée de la dépense. La dépense qui serait le cœur profond de l'économie. C'est la thèse que vous défendez dans ce livre. Pourquoi ?
Oui, mais alors c'est une question individuelle. Hein.
C'est à vous que je pose la question.
Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, il s'agit de se dépenser. Il s'agit même de donner. Vous voyez, c'est une dépense qui est un don, en fait. Ce personnage étrange, il cherche en un sens à vider les caisses. Parce que... la perversion économique qui nous tient en otage, c'est la volonté de profit, en fait. Il y a quelque chose de très simple dans cette circulation d'argent. Et lui, il est bien placé pour le savoir. Il travaille dans une banque qui n'est pas une banque de profit. Hein, c'est la Banque de France, c'est une banque d'analyse. Il y a une question très simple, celle de la redistribution. Tout simplement, c'est un mot qui a l'air un peu de faire peur, en fait. Et j'ai découvert en écrivant ce livre, en allant à Béthune sans cesse, dans ce paysage... minier, enfin, après la fermeture des mines, il y a les terrils, enfin, c'est très beau et c'est tragique, parce que c'est une région où tout le monde, enfin, on est dans une misère que le Front National a tenté de récupérer à un moment. Je me suis aperçu qu'il y avait partout d'immenses pancartes pour des organismes de crédit, des organismes qui sont en fait des escroqueries. Et il y a plein de surendettés là-bas, comme il y en a partout, des gens dont on dit qu'ils sont insolvables, c'est-à-dire plus aucune banque va leur prêter de l'argent. Et donc, ils se retrouvent enchaînés par ces organismes qui leur disent « Vous voulez 4000 euros ? Mais on vous les donne. » Et après, c'est, je ne sais pas quoi, 25% d'intérêt, 30%, puis des gens viennent les voir chaque jour, frappent à la porte. Et mon personnage, en fait, à la Banque de France, il étudie les dossiers.
Aux endettés.
Il va même les héberger, en fait. J'ai imaginé qu'il découvrait quelque chose d'inouï. Mais il le découvre de manière laïque, je dirais, c'est la charité.
C'est quel type d'amour, la charité, Yannick Haenel ?
Mais je pense, parce que là, c'est plus grand que nous. Enfin, là aussi, c'est comme d'essayer d'analyser la poésie. Enfin, c'est très embarrassant, parce qu'on ne sait jamais si on y est, ou si la poésie veut bien de nous. Mais la charité, je crois que c'est un amour inconditionnel. Je veux dire, sans condition, sans réticence, de s'occuper de quelqu'un, sans savoir qui est ce quelqu'un. C'est-à-dire de donner à l'inconnu. C'est déjà très difficile d'aimer quelqu'un qu'on croit connaître, mais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous imaginez, c'est complètement fou. Et à Béthune, là, en y allant comme ça en voiture, sur l'autoroute, la nuit, en écoutant Glenn Gould, j'ai mis ça dans le roman, parce que j'y allais, parce que ça m'intéressait. Le paysage me donnait le roman aussi.
Pour capter.
Pour capter exactement des détails, pour faire étinceler les choses. Je suis tombé un jour en plein Béthune, sur un cortège de vieux messieurs en noir, avec des bicornes et des capes. Et ils poussaient, je ne savais pas quoi, je ne comprenais pas. J'ai garé ma voiture, je les ai suivis, et c'était un cercueil. Et j'ai compris qu'ils allaient enterrer quelqu'un au cimetière, et c'était la confrérie des charitables. Ça m'a passionné et j'ai vu qu'ils faisaient, ils exerçaient, c'est une confrérie laïque, absolument laïque. Et j'ai vu qu'ils faisaient, ils accomplissaient les œuvres de miséricorde, comme dans Saint Matthieu. Enfin, vêtir ceux qui sont nus, donner à boire à ceux qui ont soif, ensevelir les morts, mais laïque. Et là je me suis dit, tiens, la banque, Béthune, donc la banque, j'avais vu qu'il y avait le plus gros Emmaüs de France, donc la gratuité, et puis les charitables. Et là je me suis dit, ça y est, il faut que je parle de ça, enfin... Et mon personnage découvre la charité, voilà.
Le mouvement qui pousse à la charité, comme celui qui en éloigne, compose exactement notre solitude. Que voulez-vous dire par là ?
Vous avez toujours l'art de poser des questions qui sont qui nous renvoient justement à un point de solitude. J'ai dit ça. Non, mais
ça ne fait que commencer, Yannick Hennel.
Je sais bien, je vous connais. Mais je crois que c'est exactement, enfin, dans mon esprit quand j'ai écrit ça, enfin, je me vois l'écrire en plus à la main sur mes petits cahiers. J'essaye d'identifier un lieu qui n'est sur aucune carte, enfin. Qui est ce lieu peut-être spirituel, alors je ne sais pas, mais spirituel, on n'a pas besoin d'une transcendance pour que ce soit spirituel. Un lieu où précisément le visage des autres est là. Ce trésorier payeur, il a une préférence dévorante pour autrui. Il n'aime pas l'argent, il s'en fout. Ça lui glisse entre les mains et il aime ce qui coule entre ses mains. Mais le visage des autres, en particulier celui des femmes, qui vont l'initier sur une trentaine d'années, certaines femmes, le révèle à lui-même et au cœur de l'existence. Là, ce lieu qui gît dans ces petites phrases-là, c'est ça, c'est le cœur ruisselant des choses, de l'être, je ne sais pas, enfin, je deviens emphatique là, je ne sais pas.
Mais vous l'êtes beaucoup d'ailleurs dans ce nouveau texte.
J'aime bien, je ne sais pas comment le prendre.
Mais très bien, non, parce qu'il y a tout un questionnement sur ce qui se joue à l'intérieur de nous, au plus profond de notre être.
Absolument, ouais, c'est...
Qu'est-ce que vous traquez? Parce que vous parlez, il y a cette histoire de tunnel. Et puis je crois que c'est un des mots que vous employez le plus dans le livre, c'est le mot trou.
Ouais.
Une sorte de trou.
Oui, oui.
Ben, en alors, nous.
Oui, absolument. Mais
c'est où?
C'est où?
C'est quoi?
Mais moi, je viens d'une famille mineure en Lorraine. Donc c'est où? C'est le lieu originel pour moi, d'où mon grand-père s'est extirpé, il en est mort. Ce sont ses poumons. Mais c'est aussi, c'est Lascaux pour moi. Je cherche quelque chose, je cherche un lieu où ça a eu lieu. Ou quelque chose justement d'avant le calcul, quelque chose d'archaïque, peut-être d'innocent. Enfin voilà, c'est ça que je cherche peut-être, c'est une forme d'innocence possible, cette irréductible dont on parlait tout
Dominica.
À l'heure.
Dominica.
Moi, il y a une phrase, je crois pouvoir la... qui m'a marqué en fait au début de votre livre, c'est, je crois, vous me reprenez si je... Nous courons tous après quelque chose qui s'absente. C'est ça. C'est le trou.
C'est le trou.
Ouais, mais c'est une définition possible pour... pas mal de choses, en fait.
Aller vers l'absence,
y compris pour la poésie.
Aller vers le manque.
Ben, c'est pas aller vers l'absence, mais aller vers quelque chose qui est insaisissable, qui s'absente. Enfin, il y a vraiment un mouvement. Et je pense que la poésie dont on parle ici, c'est précisément ce qu'on essaye de capter presque musicalement pour que cet insaisissable ne s'éloigne pas trop. Enfin, bon.
On écoute le son qui vous définit, Yannick Hennel. Vous avez reconnu la voix, Dominica?
Oui, c'est Sean Marshall.
Ouais. Ouais. Cat Power.
Cat Power. Ouais.
Cat Power.
Pourquoi elle? Pourquoi cette chanson? Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de vous?
Bon, Cat Power, je suis allé à tous ses concerts pendant des années. Fin...
Vous êtes courageux.
Ouais. Ouais, parce que...
Vous dites ça parce que souvent, elle titube.
Mais c'est
pas ce seulement, elle s'absente.
Elle s'absente.
Aussi, oui.
Mais précisément, moi, c'est ça que je trouvais beau, c'est
elle
la fragilité.
Voilà.
Ouais, mais c'est la fragilité, voilà. Elle nous prodigue sa fragilité. La fragilité, on s'en méfie tous, soi-disant que ce serait une faiblesse, mais c'est tout le contraire. Enfin,
c'est quel type de force?
C'est la richesse d'oser se dénuder, en fait, de dénuder son âme devant les autres. Et moi, ça me bouleversait à chaque fois que je la voyais. Je me souviens à l'Olympia, elle ne voulait pas passer au piano, elle n'y arrivait pas. Et tout le monde l'encourageait, c'était extraordinaire, j'en ai des frissons. Et la deuxième chose, c'est que cette chanson que j'écoutais tous les matins pour me donner de la force, puisque c'est The Greatest, c'est sur Mohamed Ali, en fait, cette chanson, quand j'allais assister au procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, c'était horrible, enfin c'était 10 heures par jour de témoignages terrifiants et bouleversants. Puis j'écrivais tout chaque matin pour Charlie la chronique de ce procès. Et il y avait 3 minutes de douceur, je fermais les yeux dans le métro. Là, et j'écoutais ça et je me disais, bon, voilà, il y a l'irréductible, la poésie, la douceur. Voilà, j'ajouterais ce mot-là, la douceur.
On creuse encore un petit peu Yannick Hennel.
Allons-y. Oui.
Avec cette phrase. Le trésorier payeur longe à pas de loup la mince cloison qui le sépare de lui-même. Je la reprends pas par hasard, cette phrase-là, parce que c'est pas la première fois que vous écrivez ces mots dans un texte.
Ah, vous êtes super attentif.
C'est dire s'il vous obsède.
Là, vous m'éclatez.
Mais vous le savez très bien.
Je vous aimais déjà bien, mais là, je dois dire, waouh. Elle est dans tous mes livres. Je la mets exprès, c'est mon petit fétiche. Enfin. Et en fait, je me demande aussi, puisque tout est quête, enfin, on parle que de ça, enfin, je me demande d'où elle vient. Quelqu'un un jour m'a dit, mais c'est de Heidegger, c'est dans Être et Temps. Je dis, ah bon, vraiment très bien. J'ai commencé à essayer de lire Être et Temps. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Bon, je n'ai pas tout lu, je dois dire. Mais,
vous savez ce qu'elle signifie ?
Mais je n'arrête pas de l'écrire. Elle est même chantée dans un texte que j'ai écrit pour une soprane qui s'appelle Papillon Noir. Et la jeune fille l'a dit, regardez comme ça de travers la première fois. Qu'est-ce que ça dit ? Oui, c'est.
Je la répète quand même, allez-y. Avant que. Ouais. Le trésorier payeur, parfois c'est quelqu'un d'autre, longe à pas de loup la mince cloison qui le sépare de lui-même.
C'est cet intervalle fou, en fait, où de manière labyrinthique, on existe, on se voit exister. Et il semble à la fois qu'il n'y ait rien et tout. Alors peut-être je complique encore la situation.
C'est le grand vertige ?
Bah, on peut le dire comme ça, oui. C'est les moments... J'aimais bien tout à l'heure, vous disiez, Dominica, qu'on n'est pas sûr d'exister. Au fond, que la poésie, elle est là par moments, par fragments inattendus. Moi, j'ai même l'impression qu'on est mort, parfois, enfin que je suis mort.
Ah oui.
Et la littérature me remet en vie. Enfin, le fait d'écrire tout le temps, moi j'écris dès le matin aussi, c'est comme un petit exercice spirituel, le mot est
C'est une manière
fort.
Aussi, pour vous, écrire, de dépenser, de vider les coffres ?
Oui, exactement. Parce que je trouve que se retenir, c'est maladif. Il y a quelque chose d'avaricieux dans nos démarches, on ne se rend pas compte qu'on est avaricieux avec la vie elle-même. Enfin, on retient des choses, on s'économise.
Il faut pas s'économiser.
Bah, je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, à plus de 50 ans, maintenant, j'en ai marre. Je dépense tout. Mais pas que l'argent. Hein. Pas que l'argent. Non, mais c'est vrai. Je me dis, bon.
Vous videz les coffres.
Ouais. Ouais.
Mais dans nos activités, on nous demande pas mal de rétention, en fait.
Mais oui.
On nous
absolument.
Demande de pas apparaître trop souvent, de pas faire trop de choses, de pas. Donc oui, moi je suis.
Vous êtes pour la dépense aussi.
Figure, hein, moi aussi, j'ai plus de 50 ans. Voilà. Donc je suis aussi pour. pour voilà, hein, de dépenser.
Voilà. Laisser être aussi. Laisser
ça
être,
ça permet quoi cette attitude ?
Bah de trouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées, je pense, en étant dans cette rétention justement. En chemin faisant, on va s'aventurer sur des terrains dans la répétition. À un moment donné, il y a un petit chemin de traverse qui va se dessiner et ce chemin, on va l'emprunter. C'est ce qui va nous sortir de la répétition et de l'acte. De création répétitif. Donc je pense qu'il faut effectivement, faut balancer, hein, faut, oui, voilà. Faut envoyer. Quoi.
On parle de capitalisme. Vous écrivez ceci, en tout cas votre jeune banquier bien particulier dit ceci. L'objet du capitalisme, c'est le profit, et la part inavouable du profit, c'est la mise à mort. La mise à mort de qui, de quoi ?
Bah, la mise à mort de chacun de nous. Alors on en survit, mais y en a qui n'y survivent pas. La crise des subprimes dont on parlait tout à l'heure, c'est sur le dos des pauvres. C'est on a spéculé, on a fait de l'argent avec la dette des pauvres. C'est prouvé. Enfin,
ou plutôt une dimension sacrificielle en fait.
Mais je crois vraiment le néolibéralisme. On se rendait pas compte. Je sais pas. On a à peu près le même âge. Dominique et ouais.
1968 pour l'un, 1967 pour l'autre.
Mais dans les années 80, je me souviens. Il y avait Reagan et Thatcher, il y a le mur de Berlin qui est tombé, la fin du communisme. Mais je ne me rendais pas compte qu'en fait, la fin du communisme, c'était en fait la possibilité pour le néolibéralisme, qui n'était jamais qu'une idéologie minoritaire, si je puis dire. Ça a été sa possibilité de nous empocher planétairement. C'est l'idéologie qui a gagné. Et on voit très bien que c'est une idéologie de la captation, qui vise l'emprise, enfin, qui vise à nous amoindrir. C'est pas pour que tout le monde s'enrichisse, enfin ça se saurait. En fait, le capitalisme, c'est une religion, ni plus ni moins, avec aussi son horreur. Enfin, c'est écrit sur les billets, In God We Trust. Mais au nom de ce Dieu auquel on croit, on tue ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien auront encore moins. C'est tout le contraire de l'évangile, en fait.
À propos de votre banquier, vous écrivez, il estimait que la politique n'était plus qu'une farce criminelle visant à mettre à mort la pensée. Il a raison, votre jeune banquier ?
J'ai l'impression que les hommes politiques, comme on dit, femmes ou hommes, sont devenus ce qu'on appelle les hommes de paille. des fripouilles désemparées. Voilà, je dirais ça. J'avais lu ça, je crois, dans Georges Bataille, des fripouilles désemparées. Ils se croient au pouvoir et ils n'ont même plus la capacité de décider. J'ai été très, très politisé, enfin, quand j'étais à Rennes, justement. Enfin, et maintenant, je milite pour autre chose, enfin.
Vous militez pour quoi?
Ben justement, pour ce dont on parle, pour la poésie, oui, absolument. Ça a l'air ridicule comme ça, mais...
Non, pas du tout, mais on milite comment, hein, quand on veut défendre la poésie?
Ben on prend soin du langage, enfin, on essaye de le... Je pense qu'il y a une attaque d'une violence inouïe, enfin, contre le langage, enfin, depuis 20-30 ans, ça s'est accéléré. Il semblerait que tous les systèmes politiques ou autres aient besoin d'affaiblir en nous nos capacités d'expression, parce que c'est comme ça qu'on est dominé. Et donc, écrire
et
des
donc
livres...
de nous empêcher de penser?
Oui, enfin...
Pour rejoindre les propos tenus
ou de penser à
votre banquier
ou de fraterniser dans l'inessentiel.
Fraterniser
dans l'inessentiel, oui, ça arrange tout le monde, au fond. Je pense vraiment qu'il y a une tentative, alors évidemment j'ai l'air d'être un peu de croire qu'il y a un complot, c'est pas de ça dont je parle, mais il y a vraiment une tentative de puritaniser le langage, de faire qu'il soit moins poétique, enfin d'en faire un simple outil de communication, au pire sens du terme, de mananière à ce qu'il n'y ait plus rien d'irréductible dans le langage, vous voyez. Et donc, écrire, pour moi, c'est aussi quand même un acte politique. Enfin, mine de rien, je ne me serais pas embêté à écrire un livre sur le capitalisme sous forme de roman si je ne pensais pas ça. Enfin.
Page 310. Il faut tout espérer de l'amour et du déchiffrement. Le point où ils se confondent est celui où s'écrit ce livre. On a parlé un petit peu du déchiffrement, pas encore beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'amour? Tout, c'est-à-dire quoi?
Moi, j'en attends tout, enfin, et pas vous, non?
Je pose les questions.
Bien sûr, je fais exprès. Moi, je pense que l'amour, ça ne va pas sans dire. Il y a des gens qui disent, quand on aime, on se tait. Enfin, le langage ne peut pas aller jusque-là. Mais je crois le contraire, en fait. Parce que je pense qu'il y a une coïncidence entre ce qu'il y a de plus beau dans le fait d'aimer, ou d'être aimé, enfin, et dans le fait de dire, de chercher à dire.
Et chercher à dire l'amour.
Ouais. Mais c'est pas moi qui dis l'amour, c'est chercher à faire en sorte que l'amour se dise. Et effectivement, j'ai écrit ce livre qui a l'air de se passer dans une banque et qui s'y passe. Mais c'est en fait pour essayer de m'approcher de cette chose, je dis cette chose avec tendresse, hein, qu'on appelle l'amour fou. Ouais. Je me suis dit qu'il fallait quand même s'y rendre disponible par le langage à ça. Je me disais, écrire des romans d'amour, bon, je sais pas, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais un peu ridicule. Et là, j'y suis allé, en fait.
L'amour fou, c'est la dépense totale?
L'amour fou, c'est, oui, c'est, mais effectivement, c'est logique qu'un banquier un peu, comme ça, un peu paradoxal, s'y jette à corps perdu. Il s'agit de perdre son corps, c'est-à-dire de ne pas chercher à gagner quoi que ce soit. L'amour fou, enfin, en tous les cas, dans ce livre, c'est se dépenser. Voilà, il découvre cette chose inouïe que les taoïstes connaissaient déjà, c'est que la véritable richesse est sexuelle. Faire l'amour, s'abandonner et voir que tout renaît sans cesse. Ça n'arrête pas. Ça ne s'arrête plus. L'amour est vraiment la vérité du langage, en fait, parce que c'est quelque chose... Vous voyez, c'est pas antagoniste, c'est quelque chose qui ne cesse de se... Vous parliez de répétition, Dominika. C'est qui ne cesse de se trouver, de s'épanouir à travers le langage qui ose l'accompagner. Il y a un très beau poème de vous, où vous dites... Je vais en lire un petit passage.
Ah bah oui, allez-y.
Parce que ça a à voir avec ce que j'essaye de dire, de balbutier. Ça s'appelle Concordance. Et vous écrivez... Et si j'écrivais un poème en courant, ou bien en pleine conversation, en cherchant un appartement, le poème épouserait le moment, l'écriture ne l'isolerait pas, et si les moments traversés s'écrivaient d'eux-mêmes. Et c'est ça... Si les moments traversés s'écrivaient d'eux-mêmes, les étreintes, c'est une écriture, peut-être insaisissable, mais c'est ça que je cherche à déchiffrer, en fait. C'est ça la littérature, pour moi. C'est pas de raconter des histoires sociologiques qu'on pourrait mieux lire dans les journaux. Enfin, c'est vraiment chercher ce point où le temps s'extasie lui-même à travers, par exemple, deux êtres qui s'embrassent. Enfin, c'est ça, ça s'écrit là, ça s'écrit. Faut s'approcher de ça et transcrire ça. Trouver les mots pour ça.
Écrire l'amour.
Ouais.
Dans un monde où on n'y comprend rien, l'amour. C'est ce qui se dit dans votre livre.
Oui, mais il y a des discours sur l'amour, ça se vend bien, enfin, partout. Pornographie d'un côté, c'est-à-dire incompréhension de l'amour, et eau de rose de l'autre côté, c'est-à-dire n'y rien comprendre. Donc.
Et au milieu, Yannick Enel.
Voilà. Je suis venu sauver la littérature. Merci
et l'amour, j'espère.
Merci de vous moquer de moi, c'est gentil.
C'est petite taquinerie.
J'aime bien.
Le trésorier payeur, un roman qui est ébloui et qui a cette grande qualité de mener à l'intensité et à l'infini d'une vie. C'est signé Yannick Enel. Vous restez avec nous.
La première.
Dans quel monde on vit?
Le samedi de 10h à 11h.
Pascal Claude.
Et je vous espère en forme en ce début de week-end. L'écrivain Yannick Enel et l'artiste et poète Dominique A sont nos invités ce matin avec vous. Dominique A, nous allons nous frotter au monde réel et à votre présent impossible, respectivement, votre nouvel album et votre premier livre de poésie. C'est dans quelques minutes, mais d'abord, c'est en toutes lettres et c'est avec vous ce matin. Juliette Goudot, nous vous écoutons.
Cher corps, vous connaissez peut-être ces photographies de Marilyn Monroe, réalisées par Bert Stern pour le magazine Vogue, quelques semaines avant sa mort, une nuit d'août 1962 à Los Angeles. On y voit Marilyn à l'état pur, pour citer le photographe qui exposa la série 20 ans plus tard. Au début, elle porte une robe noire, le dos nu, les cheveux platines relevés par un ruban, le menton dans la main, et ensuite presque rien, ou alors juste un voile, et puis deux roses fuchsia plaquées sur sa poitrine nue. Presque rien à part son regard mi-clos et ce sourire qui tient de l'extase ou de la joie pure. On remarque aussi, longue de plusieurs centimètres, une incision, à peine refermée sur l'abdomen, une cicatrice, une blessure. Celle d'une opération récente qui nous rappelle que Marilyn, justement, n'est pas qu'une image sur pellicule, que Marilyn est un corps parfois confisqué, victime de la prédation des hommes et de Hollywood, mais un corps qui fut aussi son principal allié dans sa performance pour être Marilyn, un corps habité, vivant, vibrant et pas seulement abusé. Cette dernière séance n'apparaît pas dans Blonde, biopic fantasmé de Marilyn d'après le roman de Joyce Carol Oates et qu'on peut voir sur la plateforme au logo rouge pour ne pas la nommer. Un film qui fétichise jusqu'à l'insoutenable la douleur de Norma Jean, qui ne fut pas une mère, qui ne fut pas une enfant désirée et qui fut pourtant la femme la plus désirée du monde. De Monroe, on préfère penser encore qu'elle est ailleurs. Dans cette dernière séance où elle montre ses cicatrices en riant et où elle était sans doute parvenue enfin à avoir un corps à elle. Car ce serait quoi, pour reprendre le titre du dernier essai de la philosophe Camille Froidevaux-Maîtris, ça serait quoi avoir un corps à soi? Ça serait l'aboutissement de ce que Virginia Woolf appelait une chambre à soi, pour qu'une femme puisse écrire et se réapproprier son corps, car la chambre ultime, celle qui sera la dernière pour les femmes et pour les hommes, c'est bien le corps. Alors cher corps, si je vous écrivais au moment où en Iran des femmes hissent leurs chevelures sur des drapeaux pour pouvoir exister publiquement en tant que corps féminin, ça serait pour vous retirer à la honte, à la dissociation, au sens où Virginie Despentes nous dit qu'en tant que meuf, on est forcément dissocié. Ça serait pour vous désaliéner des injonctions à la maternité dévorante, à la séduction obligatoire, ça serait pour vous désinvisibiliser, vous déstigmatiser, vous soulager aussi. Retirer le poids du chagrin, le poids du labeur et de la violence sociale. Ce poids qui brise le dos du père d'Édouard Louis, ouvrier usé dans son court récit qui a tué mon père. Ce serait pour leur rendre leur légèreté et même leur musique. Alors peut-être que la meilleure manière d'aimer nos corps et de prendre soin d'eux, ce serait aussi de les rendre au jeu de l'acteur, au burlesque de Giulietta Massina dans Les Nuits de Cabiria de Fellini, trajectoire d'une prostituée des faubourgs de Rome, mille fois rompue et mille fois trompée, et qui se relève encore et qui sourit dans un dernier regard caméra qui clôture le film et qui nous rend notre vulnérabilité. Alors à nos corps, salut. Juliette Goudot.
Merci à vous, Juliette Goudot, Dominique A, Yannick Enel. Que diriez-vous en rebond à ce texte sur la musique de nos corps?
Il ne faut rien ajouter, c'est trop beau, il faudrait le réécouter encore.
Et ce sera possible dans quelques secondes.
L'éloge de la vulnérabilité, je trouve ça remarquable. Enfin, c'est extraordinaire, c'est ça la grande politique, je crois.
Texte à lire, à écouter et à partager sur notre site lapremière.be. Et tout de suite, nous prenons des nouvelles de Dominique A.
Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain où la vie fait des étincelles. On les voit bien. Bientôt nous porterons le manteau retourné de l'enfance.
Le corps a pris tellement d'avance, il a filé si loin devant. Nous n'irons bien qu'avec les autres.
Nouvelle du monde lointain, le manteau retourné de l'enfance et avec les autres, trois extraits de votre nouvel album Le Monde Réel, Dominika, un disque musicalement impressionnant et tellement élégant alors qu'il évoque nos temps inquiétants. Nous n'irons bien qu'avec les autres, nous n'irons loin qu'avec les autres. Vous faites le pari du collectif en fait, Dominika?
Oui, c'est un peu la méthode Coué, en ce qui me concerne, parce que je peux avoir, comme nous toutes et tous, des tendances sociales assez prononcées. Et,
ouais.
Et en même temps, voilà. L'idée m'est venue en cours de conception du disque, en fait. On était en studio et
parce que vous avez compté sur les autres.
Bah, force était de constater que leur présence me transportait et me permettait d'aller plus loin que je n'avais espéré.
On se surprendra à penser contre soi-même.
On se surprendra à penser contre soi-même. Chantez-vous aussi sur ce titre.
Oui.
Vous y parvenez?
Bah, je tente, bien sûr. J'essaye de faire voler en éclats mes préjugés. C'est un combat, en fait. Ce qu'exprime la chanson, c'est aussi, c'est pas. Je veux pas être béni oui-oui dans le discours. La difficulté aussi de penser de telles choses. C'est-à-dire de dire. Nous n'irons bien, nous n'irons loin qu'avec les autres. C'est aussi une façon de s'en persuader. Donc il y a une, c'est pas, c'est un chemin de croix. Et comme disait une amie, oui, nous n'irons bien, mais ça dépend desquels.
Oui, ça dépend avec qui.
Donc voilà. C'est...
Vous vivez à quelle distance, vous, de ce monde lointain, de ce monde avec ces gens qui ont des visages qui ne semblent être faits que pour l'écran, Dominika?
Bah, je me prémunis autant que je peux du virtuel et du numérique, du rapport aux écrans.
Mais vous vous en protégez, vous, notamment en refusant, je crois, de posséder un smartphone.
Oui. J'ai un téléphone.
Ça devient rare.
Oui, alors c'est pour des raisons, en fait. Une fois, j'avais entendu Jean Ziegler parler des matériaux avec lesquels les smartphones étaient constitués.
C'est
notamment,
pas terrible.
Il parlait d'enfants qu'on envoyait dans les boyaux de mines qui étaient trop étroits pour faire passer des corps d'adultes. Donc, il y avait des enfants africains qui vont chercher des trucs pour nos appareils. Donc, ça m'a un peu remué. Et puis, au-delà de cet aspect des choses, si j'ose dire, c'est j'essaie de réduire ma dépendance et puis d'avoir du temps pour lire, voyez-vous. Moi, je lis beaucoup en me déplaçant. J'ai besoin de ce temps de... Et donc, c'est du temps qui ne m'est pas arraché, si vous voulez.
Mm.
C'est du temps que je garde, que je dépense, mais pour moi.
Vous avez la possibilité de caresser le temps pour reprendre...
Non, mais moi, tout à l'heure, ce qu'on a dit sur le temps, c'est vrai que c'est très important pour moi, oui. C'est ce qui fait défaut et c'est ce qui nous est retiré. Donc, et je crois que c'est dans ce rapport au temps qu'on peut arriver à imaginer d'autres modes de vie. Et ça devient un petit peu nécessaire d'essayer d'imaginer d'autres modes de vie. Donc, le temps est un atout. Oui. Et comme on cherche à distraire notre attention en permanence via justement les écrans, etc., c'est aussi une façon de nous arracher à ce temps qu'on pourrait prendre pour réfléchir et pour agir. Ça peut paraître très fumeux, hein, mais j'y crois. Je crois à ma fumisterie.
Je vais vous tendre votre propre livre de poésie et vous demander de lire ce texte qui a pour titre « L'homme à abattre ».
Les gens sont de plus en plus jeunes. Sapé comme un bourgeois dans mon trois quarts, l'air du sexagénaire que je serai bientôt, complice passif du réchauffement, du désastre néolibéral et de l'absence d'empathie, je suis l'homme à abattre.
Signé Dominika A.
Né.
Ah oui, Dominika A. Né. C'est pas les mêmes?
Oh, c'est une coquetterie.
Dominika A, le chanteur, et puis Dominika A. Né, le poète, l'écrivain.
Disons que j'ai l'impression de m'impliquer plus, d'avoir moins ce petit jeu de
distanciation,
distance,
ouais.
Avec la page, qu'avec le son.
Et donc vous vous sentez complice?
Bah oui, de fait, parce que j'agis trop peu. j'agis trop peu et que je laisse aller. Mais oui, je laisse aller. Mais parce que il y a des injonctions dans nos vies à déplacer les centres de d'intérêt sur d'autres choses et pas se préoccuper de choses essentielles.
En quoi vous sentez-vous, par exemple, complice de l'absence d'empathie?
Parce que je constate chez moi des fois une absence de compréhension par rapport au malheur d'autrui, en fait, une espèce de d'indifférence qui est navrante, qui ne m'est pas propre, hein, évidemment. Mais je veux pas m'exclure de justement du nombre par rapport à ça. Je crois qu'on est tous un peu dans ce. La plupart du temps, on fait ce qu'on peut. Hein. Mmh. On cherche pas forcément à faire le mal, mais on cherche peu à faire le bien, me semble-t-il.
Allons vers la charité.
Mmh. C'est ce genre d'histoire est absolument incroyable, en fait. Hein. Ce dont vous parliez, que vous relatez au début de votre livre. Alors, moi, j'ai côtoyé des gens un petit peu dans le social, dans le socioculturel. Je fais des actions de médiation. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens avec. Après, je me suis écarté de ça parce que par rapport à ma position d'artiste, avec il y avait toujours ce discours comme quoi l'art était pour tout le monde et qu'il fallait que c'était simplement si les gens n'y avaient pas accès, c'est que voilà, les conditions n'étaient pas réunies. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a des fois aussi des gens qui n'ont pas besoin de l'art véritablement. Et pour qui les enjeux de vie se placent ailleurs. C'est très troublant.
Personne pour qui l'art est un luxe ou une non-nécessité?
En parlant de ça, je pense à une amie qui est artiste elle-même et qui, à un moment donné, pour des raisons économiques, a repris un travail autre, qui travaillait dans les hôpitaux, et qui disait qu'elle côtoyait des infirmières, certaines infirmières avec des qualités humaines infinies. Et une capacité justement d'empathie incroyable, mais pour qui les artistes étaient simplement des parasites de la société. Donc ça remet un peu les choses en perspective par rapport à la perception de l'art et à la possibilité de l'art d'être salvateur pour toutes et pour tous. Alors moi j'ai été sauvé par l'art, c'est facile pour moi de dire l'art nous sauvera. Tout ce que je délivre là, tout ce que je dis là, ce sont plus des interrogations. Hein, c'est pas du tout
Mais c'est bien aussi les questions.
Hein. Oui, de toute façon. Mais c'est bien aussi de temps en temps les réponses. N'est-ce pas?
ça m'arrange, moi, parfois, quand je pose des questions. C'est vrai, je dois bien le reconnaître, Dominique. Vous parlez de vos mots sans la musique dans votre nouveau texte. Mes mots sans la musique cherchent les cailloux sur le sol, cherchent la forêt, écrivez-vous. Des mots qui semblent un peu paumés.
Oui, livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que là, j'interroge poétique le fait d'écrire sans la perspective du chant, sans la perspective de la musicalité, la musique autour, des arrangements qui permettent aux mots de revêtir d'autres atours, d'avoir d'autres significations. Là, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont posés sur la page en tant que mots et par rapport à une chanson qui continue à vous appartenir aussi longtemps que vous la jouez et vous la faites vivre sur scène, là, c'est pas le cas. Là, le mot, il est là et il doit, en quelque sorte, se débrouiller sans moi.
Ouais. Mais vous avez quand même une méthode. Hein. Vous écrivez « Je les prends à part un par un et je supplie chacun d'accueillir un secret ».
Oui, alors je ne veux pas me livrer à une explication, parce que ce serait hasardeux, mais...
Et vous injectez dans chaque mot une sorte de secret?
Je vous dis, ça serait hasardeux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux signifier, me semble-t-il, en tout cas, si je me place dans l'état d'esprit dans lequel j'étais pour écrire ça, c'est que, du coup, c'est moi qui suis un peu perdu avec... justement, cette absence de musique, c'est pas seulement eux qui sont perdus, c'est moi aussi par rapport à eux. Et donc, je me tourne vers eux pour, en quelque sorte, me recueillir un petit peu mes doutes.
Les mots, ils contiennent des secrets, Yannick Hennel?
Mais oui, je pense qu'il y a une dimension intérieure du langage.
Des trous dans les mots?
Mais oui, bien sûr, absolument. Vous allez vous dire que je vois des trous partout, mais c'est de ça dont il s'agit. C'est cette absence qui donne de la présence, voilà. J'aime bien quand vous parlez d'écouter les mots qui, c'est pas qu'il va injecter, Dominique A, des secrets dans les mots, mais c'est les mots qui possèdent leur propre secret. Il faudrait arriver peut-être en enlever la gangue, voilà, les écouter.
Ouais.
Écouter le langage, ça s'appelle écrire.
On va écouter le son qui vous définit, que vous avez choisi, Dominique A.
M'aurais étonné.
Qu'est-ce que c'est, Dominique?
C'est un générique d'un feuilleton ORTF.
La télé publique française.
La télé publique française, ouais, dans les années
70.
70 en tout cas. Donc moi j'étais enfant et c'est un feuilleton, une série en 6 épisodes inspirée de L'île mystérieuse de Jules Verne, rebaptisée bizarrement L'île bleue. Et donc avec cette mélodie. Qui, moi, gamin, me bouleversait et qui, littéralement, on a l'impression que les cordes dégueulent derrière. Quoi. C'est une espèce de... Comme si les cordes étaient un peu ivres, étaient sur un bateau et avec cette espèce de mélodie un peu séraphique, comme ça. Le fondement de mon goût pour les accords mineurs, les harmonies mineures, se niche peut-être dans ce générique.
Parmi tout serait peut-être né là.
Il y en a d'autres. Hein. Il y avait aussi Belle et Sébastien, un peu sur le même mode. Hein, c'était des génériques très, très chargés de tristesse et de mélancolie. Donc, qui disent, moi, à mon avis, pas mal de choses. Des années 70, quoi.
Et sur la mélancolie...
70. Où avais-je la tête?
Ouais, vous êtes en Belgique.
Ah, oui.
Et sur la mélancolie qui existe au cœur de vos chansons?
Oui, oui. Mais après, bon, la mélancolie, elle est un peu partout. Mais c'est vrai que je l'accueille volontiers.
Ami voilà. De la mélancolie.
Voilà.
Dominique A, Dominique Anet. Le monde réel, c'est signé Dominique A. Le présent impossible, c'est signé Dominique Anet. Et vous restez là.
Dans quel monde on vit?
Sur la première.
Très belle matinée à nos côtés, voici des frissons. Frissons transmis par nos invités. Nous écoutons votre son frisson, Yannick Enel.
Je voudrais être à votre place. Arriver ici pour la première fois, pendant les pluies. Vous ne vous ennuyez pas? Que faites-vous le soir, le dimanche?
Vous vouliez écouter la voix de Delphine Seyrig dans oui. India Song, film de Marguerite Duras. Pourquoi est-ce que ça vous fait frissonner? Vous le savez?
Oui, c'est une mélopée. Non, je ne sais pas très bien, mais c'est une mélopée rêveuse. Marguerite Duras disait qu'elle avait toujours l'impression que Delphine Seyrig, quand elle parle, a un fruit dans la bouche. Mm. Je trouve ça beau. Enfin. Mm. Et bon, je trouve cette voix, cette femme, ce film, ces femmes... Duras et elle, désirable, c'est un monde désirable. Ça me renvoie aussi au temps, au bruissement du temps lui-même, enfin cette mousson, on sent une mousson dans les voix, c'est suspendu, c'est l'Inde, mais ça pourrait être l'Afrique, c'est le monde lointain qui est le plus proche. Et voilà, bon, ça y est, je finis cette phrase parce que sinon, on finira.
Vous allez y parvenir.
Coupez-moi.
Et ben, on va enchaîner avec le son que vous avez choisi, Dominique. And she said true, it's not unusual. Then privately we danced, but couldn't see. Your mutual. Friend, je parle super bien anglais.
Mutual Friend.
Ouais, voilà, je parle hyper mal anglais. C'est signé Divine Comedy. Et oui. Pourquoi ce choix?
Bah parce que c'est un morceau qui m'a. Quand je l'ai écouté, en fait, je me souviens, j'étais en train de me raser. Enfin, non, moi, je n'ai pas certains rêves en oui. rasant, mais je me suis mis à chialer, en fait, mais ah ouais. sans en pensant à autre chose. Véritablement, j'étais en train de me raser, puis j'écoutais la musique, mais presque distraitement. Et à un moment donné, j'ai vu que je pleurais. Mais j'étais pas, c'est pas comme si j'avais les oreilles focalisées sur ce que j'entendais. C'est simplement que la musique était venue me rentrer dans les oreilles sans que j'y pense et produisait son effet. Et c'est un souvenir fort d'auditeur, ouais. en fait. C'était que mon émotion était presque commandée par la musique et pas, j'allais
et par
pas
la
chercher.
Voix, ouais.
Et par les cordes, par l'histoire aussi, en fait, que raconte cette chanson.
Ouais. On va se quitter avec vos choix culturels pour ce week-end. Juliette Goudot d'abord.
Moi, je voulais citer la ressortie en salle et en version restaurée d'un film de Chantal Akerman qui s'appelle Toute une nuit, qui est un film qui était sorti en 1982 et qui est un véritable poème urbain où on assiste à des corps justement et des êtres qui se dont on ne sait rien et qui s'enlacent et se délassent à Bruxelles le temps d'une nuit caniculaire. Voilà, et je signale que Chantal Akerman, qui est vraiment une cinéaste belge culte, ouais, est célébrée tout cet automne dans une espèce de cycle comme ça qui s'appelle Chantal Akerman, une cinéaste à Bruxelles, qui lui rend hommage à travers des expositions, parcours, lectures à Beaux-Arts, au Cinéma Palace et à la Cinémathèque.
Yannick Enel.
Alors moi, c'est un livre que je suis en train de lire, de Philippe Bordas, qui s'appelle « Le célibataire absolu ». C'est un gros livre publié chez Gallimard. Le titre est assez beau, « Le célibataire absolu
wow. ». Quel projet.
Oui, quel projet. Et ça porte sur Carlo Emilio Gadda, très grand écrivain italien, c'est le Joyce italien. Et le livre de Bordas, de Philippe Bordas, est très beau, il vient de sortir, je crois, ces jours-ci, parce qu'il rend compte de sa passion sur 400 pages pour Gadda. Depuis qu'il est jeune homme, il a rassemblé des documents et il raconte aussi son adoration. Moi, j'aime ça, enfin, les récits d'adoration.
Dominica ?
Moi, c'est le Quatuor des saisons de Karl Ove Knausgård, donc un Norvégien.
Ouais.
J'ai lu ça fin d'été. Le premier volume, donc c'est une tétralogie, donc 4 volumes, au printemps, ça commence par l'automne, je crois, automne, ouais, hiver, printemps, été. Ce sont des espèces de petits chapitres à chaque fois sur un sujet, ça peut être les mouches, ça peut être le vomi, le rapport, est, ben, ça peut être la lune. Et en fait, c'est une tentative à destination d'un enfant qui va naître de retrouver l'émerveillement par rapport aux choses, de décrire les choses de façon la plus honnête possible, et puis après de chercher, mais sans ostentation, l'émerveillement, revoir les choses en fait. Une façon de re-regarder les choses.
Rien n'est plus doux que penser à toi, si ce n'est rêver de toi. Oui, rêver c'est encore plus doux que penser, les rêves font tout ce que nous voulons. En rêve, je te vois où tu devrais être, reine, ange, dans un palais au ciel. C'est pas un extrait du nouveau livre de Yannick Enel, ce sont des mots de Victor Hugo adressés à Juliette Drouet. Les mots d'amour d'Hugo, les lettres de Juliette, tout est réuni dans un livre format poche, un folio qui vient de sortir et que je vous recommande. Et à lire bien sûr les livres de nos invités, Le trésorier payeur de Yannick Enel et Le présent impossible de Dominique Anet, sans oublier Le monde réel de Dominique A. Vous serez d'ailleurs, Dominique, en concert le 2 février à Bruxelles, le 3 à Libramont et le 7 avril à Mons. Je vois que Juliette a déjà pris note. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup, Juliette.
Merci à tous.
C'était Dans quel monde on vit. Merci de nous avoir suivis. Et vous savez quoi ? Dans quel monde on vit, c'est encore mieux en direct. La preuve, chaque samedi entre 10 et 11 heures sur la première. À très vite.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.